TRCF Miss Côte d'Azur, soyez toutes et tous les bienvenus. Nous retrouvons tout de suite le Père Vincent-Paul Tocoli pour votre émission Culture et Spiritualité. Père Tocoli, bonjour.
Bonjour Alexia.
Nous arrivons à l'avant-dernier épisode de notre série sur l'origine du christianisme, proposée par Gérard Mordilla et Jérôme Prieur. Rompre avec le judaïsme, c'est son titre. Alors nous allons reparler de Paul. Tout d'abord, Paul est-il l'inventeur du christianisme ?
Bien sûr, poser
bonne
la question.
Question.
Oui, bonne, mais en même temps, comme on pose des questions un peu brutalement, on peut répondre oui comme on peut répondre non, vous comprenez ? Quand la raison est brutale, qu'elle n'a pas d'adverbe, qu'elle n'a pas de circonstances, etc. Certainement, en tout cas, que dans la mise en place du christianisme, Paul a joué un rôle extrêmement important. Et pour plusieurs raisons. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'il est, d'une certaine façon, avec d'autres éléments, le co-inventeur du christianisme. Et d'abord, il faut le dire tout de suite, que l'inventeur du christianisme en tant que tel, par définition, c'est Jésus de Nazareth, le Christ, le Fils de Dieu. Le christianisme, ce n'est que sa vie, sa mort et sa résurrection, ses rapports avec les hommes, ses rapports avec Dieu, la conscience qu'il a de l'universalité du message, etc., etc. Le fondateur du christianisme, c'est Jésus de Nazareth en tant que tel. C'est l'exploitation qui en a été faite, et où Paul a été le premier à l'exploiter. C'est là que l'on peut dire qu'il a été l'inventeur du christianisme au sens où sa théologie, comme je l'ai dit maintes fois au cours des émissions, a précédé la rédaction définitive de ce que nous appelons les évangiles. Donc dans ce cas-là, il est vrai que la structure mentale que Paul met au point à partir de ses origines pharisiennes, d'une part, et d'autre part à partir de son expérience personnelle en tant que croyant converti, apôtre de Jésus-Christ, et enfin, troisièmement, au contact avec les populations dites païennes, c'est-à-dire non-juifs, avec lesquelles il était en question, et surtout l'hellénisme, c'est-à-dire la structure mentale grecque, va donner à ses épîtres et à sa façon de voir, etc., un cachet tout particulier. Donc, dans ce cas-là, on peut dire que s'il n'est pas l'inventeur exclusif du christianisme, ce qui est une formule un peu vide, il a certainement contribué à faire que le christianisme soit ce qu'il est.
Alors, juste une petite question. À cette époque-là, on parlait plutôt de mouvement. Paul était-il plutôt juif ou alors chrétien ?
Ben, le problème d'être juif, c'est que ça confond deux choses. Ça confond d'une part une espèce de nationalité, être juif, puisque le mot juif, en fait, mot à mot, veut dire judéen, ceux qui appartiennent à la Judée, qui est la province autour de Jérusalem, et qui fait que le mot de cette partie-là est devenu l'ensemble, si vous voulez. C'est comme pour les Français, la tribu la plus importante, c'était les Francs, et ces Francs-là ont donné le nom à la France. Mais il y avait aux alentours toutes sortes d'autres peuples qui n'étaient pas Francs, mais qui sont devenus Français lorsque le nom est venu à la France. Ça vaut pour les Germains, les Alamans, etc., etc. Donc, en ce sens-là, il était juif, premièrement, de nationalité, si je puis dire. Deuxièmement, il était juif, en ce sens que le mot juif signifie aussi la religion juive, fondée par Moïse à la sortie, la religion, hein, pas la foi en Dieu, à la sortie d'Égypte. Donc, il était juif à un double titre. Il était comme ça. Et c'est ce juif juif, pourrait-on dire, ce judéen juif, qui va devenir chrétien. Devenir chrétien, ça veut dire quoi ? C'est embrasser la foi à Jésus de Nazareth. Donc, ça n'est pas une nationalité. C'est une disposition de l'âme, de l'esprit, du cœur, de la raison, qui fait qu'on adopte cette foi plutôt qu'une autre. Donc, il était juif, juif, lorsqu'il y a eu la révélation. Il ne pouvait avoir la révélation qu'après qu'elle se soit manifestée. Donc, il était juif et il est devenu chrétien. Mais, c'est-à-dire que c'est sa religion qui s'est précisée. On peut dire que Paul a été l'un des premiers judéo-chrétiens.
Alors justement, est-ce qu'avec cette révélation et en devenant chrétien, Paul a rompu ses liens avec le judaïsme ?
Ben, il a été forcé par les événements. Je vous ai décrit déjà dans les précédentes émissions qu'il s'adressait d'abord, il allait dans les villes qu'il traversait, Corinthe, Thessalonique, Éphèse, Colosse, etc., etc. Il allait d'abord dans les synagogues. Il s'adressait d'abord à ce co-religionnaire juif, qu'ils n'ont pas accepté, du moins beaucoup, certains. D'autres, même, ont été jusqu'à vouloir le poursuivre et le mettre à mort. Donc, il a dû fuir. Et devant cette opiniâtreté, tout à fait légitime d'ailleurs, il n'y a pas de raison, hein, que des juifs de ne pas vouloir accepter le message de Paul. C'est à ce moment-là qu'il s'est, dit-on, résolument tourné vers les païens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a dit, ben, si c'est comme ça, ben, restez-en à la promesse qui vous a été faite, mais moi je vais maintenant travailler. Alors, c'est là qu'il y a le fameux songe, très intéressant, dit-il, où dans un songe, précisément, il aurait vu un jeune homme qui lui tend les bras et qui lui dit « passe en Macédoine, passe en Europe ». Il se trouve à l'heure actuelle à Éphèse ou à Milet, je ne sais plus. Donc il est en Moyen-Orient, il est sur l'Asie mineure. Et pour lui, c'est la décision importante que de passer en Europe. Passant sur le territoire de la Macédoine, sur le territoire à l'heure actuelle de la Turquie d'Europe, il va aller, donc, sur le chemin vers l'Europe. Il vaudra même aller, comme je l'ai dit dans la précédente émission, jusqu'au bout de l'Europe, qui est donc le Finistère, c'est-à-dire Tarsis, l'Espagne.
Alors, j'aimerais qu'on évoque quelques minutes, très, très rapidement, ces écrits. La place qu'occupaient les épîtres de Paul à la fin du 1er siècle.
La fin du 1er siècle, c'est donc, si vous voulez, si je comprends bien la question, c'est après la rédaction des évangiles de Luc, plutôt de Marc, qui est donc vers les années 70, de Matthieu et de Luc, dans les années 80-85, avant la rédaction définitive de l'évangile et de l'Apocalypse de Saint Jean, qui date des années 100-110, la période dont vous me parlez, c'est donc celle qui va de 80-85 à 100-105, donc les 20 ans de là. Alors, quelle est la place de ces épîtres? La place de ces épîtres, elle est que maintenant, Pierre est mort, Paul est mort, les gens se répandent dans le bassin méditerranéen, les communautés commencent à s'organiser. Eh bien, la place des épîtres de Saint Paul, des lettres de Saint Paul qui circulent et que l'on a rassemblées, et qui vont constituer le Nouveau Testament, sont répertoriées dans un endroit d'une catacombe qui s'appelle Muratori. Muratori, ça veut dire les maçons. C'est même une marque de cigarette, je crois, en Italie. Alors, on appelle ça le canon, c'est-à-dire le sommaire de Muratori. Eh bien, les lettres de Paul dont nous parlons sont répertoriées déjà à ce moment-là. C'est-à-dire que l'on peut dire que les lettres de Paul, au même titre que les évangiles, sont utilisés dans le culte. À quel moment? Ben, sont utilisés dans le culte au moment où cela se passe, c'est-à-dire dans la partie de la messe qui est à l'heure actuelle ce qu'on appelle l'office de lecture. C'est à ce moment-là que ça se passe.
Nous venons d'évoquer donc les écrits de Paul. Nous allons poursuivre avec ses lettres. Alors, on a beaucoup parlé au sujet de l'écriture de ces lettres. Est-ce que c'était lui qui en était l'auteur? Est-ce que c'est pas lui? Il y a du oui, il y a du non. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un nom, Marcion. Est-ce que ce serait l'éditeur de ces lettres?
Ben, Marcion est un homme extrêmement intelligent. C'est quelqu'un qui participait aux écoles de philosophie de la ville de Rome. Et c'est quelqu'un qui s'est posé la question. Rappelez-vous que nous sommes dans une situation où rien n'est fixé. Et où des tas de gens tout à fait honnêtes, et Marcion en est un, pensent ceci et pensent cela. Mais pensent ceci et pensent cela de façon légitime. Il fait partie d'une minorité qui n'attribue pas à Paul toutes les lettres en question. La postérité le prouvera qu'il avait raison, que toutes les lettres de Paul ne sont pas écrites par Paul. Mais il va falloir attendre 18 siècles. Il y a toujours des gens qui ont le tort d'avoir raison trop tôt, si vous voulez, hein. Mais il va, comme Luther, s'imposer et imposer son système à lui, c'est-à-dire qu'il va mettre au point une série, un catalogue, qui ne correspond pas tout à fait à ce que l'Église, qui a le pouvoir, entre guillemets, hein, qui commence à s'installer, etc., va posséder. Donc il va y avoir un catalogue des livres de du Nouveau Testament, que Marcion va mettre au point, alors que l'Église, qui est en train de naître, en mettra un autre au point. Alors il va retenir tel évangile plutôt qu'un autre. J'avoue que, ma chère Alexia, le détail, je ne l'ai pas par cœur. Il suffit de taper sur Google ou sur AOL Marcion, point, et vous allez l'avoir, tout ce que vous voulez, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Donc je répète, un homme fort intelligent, très instruit, et qui se permet de donner une interprétation des textes. Il n'a pas été retenu. Seulement, voilà, il s'est un peu révolté contre cela, comme toujours la même chose. Il faut toujours accepter le pouvoir. Eh bien, il n'a pas accepté. Et voilà, c'est l'histoire de Marcion. Mais c'est un homme remarquable, Marcion.
Encore une question sur Marcion. Quelle théorie défendait-il, inventeur du Nouveau Testament ?
Eh oui, c'est lui qui a eu l'idée même d'appeler le Nouveau Testament. C'est pour ça que c'est un génie, Marcion. C'est un génie qui a dit, il y a eu une façon, testament ça veut dire un accord qui a été fait. En fait, le mot testament n'est pas bon en latin. Testamentum, c'est témoigner de, tandis que c'est diatheke. La diatheke, c'est un accord qui est fait entre Dieu et les hommes. Ben, il y a eu le premier accord entre Dieu et les hommes avec l'Ancien Testament. Il y aura un second accord entre les dieux et les hommes. Voilà. Il y a donc une première alliance, une seconde alliance. Et Marcion a donc été l'inventeur du mot même que nous utilisons maintenant. Vous voyez, on a retenu de lui des choses fort importantes. Est-ce que le nom est judicieux ? Ce, c'est un autre problème. Mais le fait est que nous appelons comme cela.
Père Toccoli, merci. Nous concluons ainsi notre 9e émission sur la série L'origine du christianisme proposée par Gérard Mordilla et Jérôme Prieur. Rompre avec le judaïsme, c'était le thème de cette émission proposée sur RCF Miss Côte d'Azur dans votre émission Culture et Spiritualité. À l'écoute de notre antenne, bonne continuation avec nos programmes.